Matin, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur un thème qu'on avait commencé à aborder. En fait, c'est la gloire de Dieu. Et on avait commencé à regarder plusieurs choses et pendant une ou deux fois, bon, on a été un petit peu ailleurs et là, j'ai senti qu'il était important et nécessaire de revenir sur ce sujet et j'ai le titre qu'on pourrait mettre cette fois-ci, c'est « Qualifié pour la gloire ». Qualifié pour la gloire. Et avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on lise ce passage d'Ésaïe 60, les versets 1 à 2. Ésaïe 60, versets 1 et 2. Il est dit « Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive, et sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Amen. On avait lu la semaine dernière déjà, j'étais parti faire un petit tour ailleurs et on avait parlé de la joie de Dieu qui était, pourquoi pas, l'un des éléments par lequel la gloire de Dieu pouvait paraître sur nous. Comme le dit ce passage, c'est vrai que la terre est dans les ténèbres, c'est vrai que les gens ou le monde est dans une forme d'obscurité, mais n'empêche que il ne suffit pas pour nous d'être là et de dire le monde est sombre, le monde est triste, le monde est difficile. Mais nous sommes appelés, établis par Dieu pour amener dans ce monde justement la lumière. Il a dit ailleurs, vous êtes la lumière du monde ou le sel de la terre, pour amener la gloire de Dieu. Puisque Dieu déclare ici, par l'Esprit de Dieu, nous confie qu'il y a une portée prophétique pour l'Église de Christ, puisque je vous rappelle que Christ vient chercher une Église glorieuse, sans tache ni ride, et sur toi la gloire de l'Éternel. Sur toi, sa gloire apparaît. Apparaît, ça veut dire que c'est visible. Et je vous rappelle qu'on avait eu un message qui s'appelait la révélation des fils de Dieu, où on avait commencé à voir, eh bien, le monde attendait quelque chose. Et ce quelque chose, selon l'Épître aux Romains, c'est la révélation des fils de Dieu. On avait vu qu'il ne suffisait pas que nous sommes des chrétiens ou que nous sommes des enfants de Dieu, mais que le monde attendait la révélation. Ou bien la manifestation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit être visible, sensible, perceptible par le monde. C'est-à-dire que lorsque le monde, comme on appelle, regarde l'Église, pas seulement voir un ensemble de gens qui parlent de la Bible et qui sont peut-être un petit peu, qui ont peut-être une moralité un peu supérieure au reste, mais ils devraient voir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Et en fait, révélation des fils de Dieu, plus que ça, c'est une révélation de Dieu lui-même. Hein, puisqu'ici, dans Ésaïe, il est dit sur toi, l'Éternel se lève et sa gloire apparaît. C'est-à-dire que Dieu lui-même devrait apparaître à travers ses enfants. On a vu qu'il y avait plusieurs caractéristiques, hein, en voyant des choses dans l'Ancien Testament et plusieurs fois dans la parole, on a vu qu'il y avait un rayonnement. Hein, comme Moïse qui avait l'éclat de la gloire de Dieu sur son visage, comme Jésus dont il est dit que nous avons contemplé sa gloire, c'est-à-dire que c'était visible, comme également Paul qui s'est trouvé face à une grande lumière aveuglée lorsque Christ s'est révélé à lui. On avait vu également qu'il y avait un impact ou une puissance dans les paroles, puisque la Bible déclare que la voix de Dieu est comme les grandes eaux. Et elle dit également que Jésus... il y avait un bruit comme celui des grandes eaux et il est dit également dans l'Apocalypse que lorsque le peuple s'exprimerait devant l'Éternel, ce serait un bruit semblable à celui des grandes eaux. On avait également vu que ça crée une atmosphère. Et je vous rappelle l'un des exemples remarquables, c'est les malades. En fait, c'est pas une ombre par rapport au soleil, mais c'est qu'il y a une atmosphère qui se crée là où se trouvent les fils de Dieu. On a vu également que à travers, par exemple, l'exemple d'Ésaïe, à travers l'Apocalypse, mais aussi à travers les préfigurations du tabernacle, du temple de Salomon, etc., que, en fait, devant Dieu ou dans sa présence, il y a une atmosphère particulière d'adoration et de sainteté. Puisqu'à chaque fois, les gens sont devant lui, ils adorent. Les gens proclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel » et ils y associent une parole qui dit « La terre et les cieux sont remplis de sa gloire ». Cette manifestation, surtout dans l'Ancien Testament, de ce qu'ils appelaient la nuée, et qui parfois empêchait même les gens de rester dans la présence de Dieu, parce qu'il y avait quelque chose de sensible. Et tout de suite, je vous rassure et je mets l'équilibre qu'il faut. C'est pas qu'on va être en train d'essayer de rechercher du sensationnel. Mais n'empêche que lorsque les gens entrent dans l'église, ou lorsque les gens sont au contact de vrais fils et filles de Dieu, ils devraient être touchés par quelque chose de supérieur, qui les touche, qui les convainc que, mais il y a quelque chose là, qui n'est pas juste un discours. Vous savez ce qui nous différencie, nous les croyants, à la parole de Dieu, par rapport à n'importe quelle religion? C'est pas que on a un message, puisque toutes les religions ont un message. C'est pas qu'on a un livre, parce que la plupart des religions ont un livre. Mais ce qui nous différencie, c'est que nous avons cette gloire qui est appelée à être manifestée. Alors la gloire, c'est quoi? Je vous rappelle en deux mots, la gloire, c'est la présence habitante de Dieu, céleste, puisqu'on voit que le trône de Dieu est entouré de gloire. Il est dit dans les psaumes 29 que dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, ou parfois lorsqu'on dit même la gloire de quelqu'un, ou de quelque chose, ou même d'une entreprise, eh bien on parle de rayonnement, on parle d'influence. Et de la même manière, Dieu désire prendre, si on peut dire, son influence sur la terre. Dieu désire se faire connaître et se révéler, et il a choisi de le faire à travers son Église. Et nous avions également vu un autre message où on avait compris que établir le règne de Dieu quelque part, ou son royaume, amène aussi sa gloire. C'est comme je viens de le dire, le trône de Dieu est caractérisé ou entouré de cette gloire divine. Et lorsque nous acceptons le règne de Dieu dans nos vies, dans nos églises, cette gloire de Dieu, ou bien nous amenons les ressources du royaume de Dieu à... Vous savez, parfois les gens, ils ne savent pas comment faire pour être bénis. Ou bien on se dit, mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Mais quand vous donnez à Christ la seigneurie dans votre vie, et qu'il règne donc dans votre vie, automatiquement, la bénédiction de Dieu est disponible. Automatiquement, la faveur de Dieu vous accompagne. Et la semaine dernière, d'ailleurs, on a fait une grosse parenthèse pour montrer combien, lorsque nous passons du temps dans la parole et à faire ce que Dieu nous dit de faire, la parole nous promet et nous enseigne que tout ce que nous ferions, nous réussirait. Et la Bible déclare par ailleurs que Dieu est capable d'incliner le cœur des rois. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de faveur. Lorsque vous allez quelque part, de Dieu, c'est-à-dire que vous obéissez à la parole de Dieu, que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, et bien même si tout est fermé, bloqué, impossible, Dieu va débloquer la situation. Parce que sa gloire, sa présence, son autorité va agir en votre faveur. C'est comme ça qu'il y a des miracles. Lorsqu'on voit un miracle, c'est parce que la plupart des gens se sont mis ensemble, se sont mis d'accord et ont dit « Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie ». Ou dans cette église, ou dans cette situation, ou dans cette campagne d'évangélisation. Et lorsqu'on déclare que Jésus est Seigneur, eh bien Jésus peut commencer à agir comme le Seigneur. Et là où Jésus est Seigneur, il n'y a que ce qui convient au Seigneur qui peut continuer d'exister. C'est-à-dire qu'automatiquement la seigneurie de l'ennemi, automatiquement la seigneurie va être annulée et remplacée par la seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on obtient des miracles. C'est comme ça que des gens sont guéris, c'est comme ça que des gens sont touchés par la grâce de Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu désire continuer d'accomplir dans son Église aujourd'hui. Vous savez, les gens ont besoin de voir, d'entendre, de sentir. Ils ont besoin d'une révélation de Dieu. Les gens n'ont pas juste besoin qu'on leur dise comme ça. Et puis, facilement, on peut aller de message en message. Moi, je connais des gens qui aiment bien l'Évangile, qui peuvent même venir dans des réunions chrétiennes, qui aiment qu'on leur parle de la Bible, mais qui en même temps aiment bien aller chez les témoins de Jéhovah, parce qu'ils parlent de la Bible aussi, qui en même temps aiment bien aller chez les mormons, parce que ça parle de la Bible un petit peu aussi, et ils vont un petit peu partout, parce que, quoi, ils n'ont pas une révélation de Jésus-Christ, qui est définie dans la parole comme la pierre angulaire, c'est-à-dire qu'en dehors de Christ, même si vous parlez de la Bible, même si vous parlez de Dieu, eh bien, on n'est pas dedans. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Et il n'y a aucun autre nom qui est donné sur la terre par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Amen. Donc nous avions vu qu'il fallait, pour se faire rétablir l'autel de Dieu, ou bien le trône de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que Dieu devait être le premier, devait avoir la première place en nous pour que justement son règne soit établi, manifesté, et que sa gloire qui s'y attache soit manifestée. Et enfin, on a regardé plusieurs choses sur ce qu'on avait appelé le baptême de feu. Jésus devait nous baptiser de Saint-Esprit et on a désiré être baptisé, c'est-à-dire immergé dans ce feu, en fait, qui est la gloire de Dieu, sa présence agissante. 2 Corinthiens 3:18 nous offre cette perspective intéressante que si nous contemplons Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc ça, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on a vu précédemment. C'est comme des fois dans les séries, vous avez une petite intro marquée précédemment et puis là, on va passer à la suite. Alors, il est clair dans la parole que la terre doit être remplie de la gloire de Dieu. En Ésaïe 40, parce qu'on était dans Ésaïe. Ésaïe 40, on va prendre le verset 3, qui justement nous montre qu'il est important de préparer. Quand je dis qualifier pour la gloire, en fait, c'est pour nous montrer que nous avons besoin de nous préparer et de préparer, dans un sens, le terrain pour le Seigneur. Donc, Ésaïe 40, on va prendre le verset 3. Il est dit « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. » Alléluia. La parole déclare ici que la gloire de Dieu doit être révélée et que quoi ? Chair la verra. Ésaïe 40, et c'est le verset 5. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand la bouche de l'Éternel a parlé, en général, c'est qu'il va se passer quelque chose. Si vous lisez la Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Qu'est-ce qui se passe ? La lumière fut. Dieu dit qu'il y ait des luminaires pour éclairer le jour et la nuit. Qu'est-ce qui se passe ? Existe. Quand Dieu dit que les eaux se séparent de qui sont sur la terre des eaux qui sont au-dessus du firmament, qu'est-ce qui se passe? Les eaux se séparent, il y a la terre et la mer et puis il y a le ciel et ainsi de suite. Donc quand Dieu parle, il se passe quelque chose. Quand Dieu a parlé, il a déjà accompli ce qu'il a dit. Et la parole déclare par ailleurs que la parole de Dieu ne reste pas sans effet, ne retourne pas à lui avant d'avoir accompli. Donc s'il est dit là que la bouche de l'Éternel a parlé, que la gloire de Dieu devait remplir la terre, et que toute chair la verra, c'est que toute chair doit voir la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas en train de faire des théories bizarres. Ok. Et si vous relisez, on ne va pas y aller, mais dans Ésaïe 6, où on a cette scène où le prophète Ésaïe est devant une vision du trône de Dieu, il voit des anges qui adorent, et ces anges-là, qu'est-ce qu'ils proclament? Ils proclament que la terre est rempli de la gloire de Dieu. Vous allez me dire, bah oui, mais aujourd'hui, bon, quand on regarde autour de nous, quand on regarde dans ce monde, on ne voit pas tellement la gloire de Dieu. Peut-être que des fois, on voit ou on ressent la gloire de Dieu quand on est avec des frères et sœurs en Christ, un petit peu comme ça, mais eh ben, c'est justement pour ça, Ésaïe 60 qu'on a lu tout à l'heure, que Dieu déclare que même si la terre est dans les ténèbres, même si les peuples sont dans l'obscurité, sur nous, sa gloire se lève. Sa gloire se lève. Et la parole de Dieu nous montre aussi combien Dieu remplit sa maison ou son habitation de sa gloire. Je vous rappelle qu'on avait vu le tabernacle. Vous pourrez regarder ça dans Exode, au chapitre 40 notamment, où il est dit que lorsqu'ils avaient tout fait selon que Dieu leur a donné, eh bien la gloire de l'Éternel a rempli la maison ou le sanctuaire sous forme d'une nuée. Vous pourrez regarder aussi dans 2 Chroniques que lorsque le temple a été bâti selon l'ordre de l'Éternel, la gloire de l'Éternel a rempli le temple. Et Jésus, dans Jean chapitre 17, prie son Père, il dit « Gloire que tu m'as donnée ». Et je vous rappelle que selon 1 Corinthiens 3:16 notamment, nous sommes une habitation de Dieu. Hein? Paul disait aux Corinthiens « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Donc si Dieu a l'habitude de remplir son temple de sa gloire et que nous sommes son temple, nous pouvons nous attendre à être remplis de sa gloire puisque c'est sa caractéristique, c'est sa manière de fonctionner, c'est son désir. Et également Ephésiens 2, pour regarder ça, il est dit qu'en tant qu'Église, nous sommes tous unis et édifiés pour bâtir ensemble un édifice spirituel à l'Éternel. C'est-à-dire qu'individuellement, nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc la gloire de Dieu vient habiter dans notre vie, mais en tant qu'Église, nous sommes appelés à être l'édifice, le sanctuaire de Dieu. et dans son sanctuaire ou dans son temple, Dieu manifeste sa gloire. Et la gloire de Dieu est manifestée à travers, c'est vrai, sa présence agissante, c'est-à-dire qu'on peut ressentir sa présence, à travers des miracles, à travers différentes manifestations, mais avant toute chose, Dieu manifeste sa gloire par ses œuvres. Hein? Si vous regardez la création, la Bible nous montre que toute la création raconte la gloire de Dieu. Et des fois, on est là à chercher à dire « Ouais, mais j'aimerais sentir quelque chose. J'ai envie d'avoir des picotements. J'ai envie d'avoir, je sais pas, de tomber par terre. J'ai envie de ceci et cela. » Il y a des gens qui sont toujours en train de chercher des choses comme ça. Et c'est absolument, absolument corrompu de faire ça. Absolument corrompu. À aucun prix, nous devons chercher à sentir. À aucun prix, nous devons chercher à être secoués. À aucun prix, nous ne devons chercher à tomber. À aucun prix, nous ne devons chercher à être saisis. Je dis, à aucun prix. Et je me refuse à le faire et je m'y refuserai. Et pire que ça, je ne tolérerai pas et je n'accepterai pas que Dieu m'accuse à jouer avec ça ici. Comme ça, vous le savez déjà. Ce que nous devons chercher, c'est Dieu. Ce que nous devons chercher, c'est Dieu, notre Père. Ce que nous devons faire, c'est adorer notre Dieu, c'est le reconnaître tel qu'il est, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est Roi, parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration. Mais maintenant, vous allez vous rendre compte que quand vous cherchez Dieu, et quand vous vous tenez devant Lui, comme nous pouvons le faire, même ici, les dimanches, dans la louange et l'adoration, il peut arriver que vous sentiez la douceur de Dieu vous envelopper. Il peut arriver que quelqu'un puisse tomber. Il peut arriver que quelqu'un soit secoué, il peut arriver que quelqu'un pleure, que quelqu'un rit. C'est pas un problème en soi, mais il ne faut pas chercher ça. D'accord? Et moi, j'ai vu des gens parfois qui essayaient de produire des choses et c'est malheureux parce que quand vous essayez de produire, en fait, Dieu ne peut pas agir parce que vous le faites déjà vous-même. Ben oui. Des fois, on peut dire l'appétit vient en mangeant, mais ne croyez pas que c'est en commençant à essayer de faire quelque chose que Dieu va venir prendre le relais. Ça ne marche pas comme ça. Ok? Et je crois que c'est bon qu'on se libère un peu de tout ça. Et je connais pas tous vos arrières, mais moi, en ce qui me concerne, bon, j'ai pu voir plusieurs entre guillemets styles d'église, mais vous savez, parfois chez les charismatiques, parfois on s'est un peu trompé, on a eu cette tendance à chercher les signes, à chercher à sentir quelque chose. Et parfois on se dit, mais si j'ai pas senti, oh, c'était pas tellement bien aujourd'hui. On n'était pas là. Comment? C'est pas là. La parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est pas parce que Dieu ne fait pas quelque chose de la façon dont il l'attend et qu'il n'agit pas. Et avec cette mentalité-là, d'ailleurs, on se prive de ce que Dieu fait en réalité. Et s'il est vrai que, comme je disais, il peut y avoir des manifestations physiques ou visibles de la présence de Dieu dans nos vies, et c'est très bien, et il faut pouvoir les accueillir, mais c'est pas ça qui doit nous faire mesurer à quel point nous avons passé un temps de qualité avec Dieu. Et même si on se prépare à voir la gloire de Dieu et sa manifestation, on ne se prépare pas non plus pour n'importe quoi. Et vous savez, parfois, avec ce genre de choses, eh bien, quelque chose qui au départ était censé glorifier Dieu, parce qu'en fait, quand Dieu manifeste sa puissance, quand Dieu opère une guérison, ou même quand quelqu'un est sauvé, tout simplement, ça doit glorifier Dieu, c'est d'ailleurs le plus grand des miracles, que quelqu'un soit sauvé. Ou bien si à un moment on sent quelque chose de la présence de Dieu, mais au départ Dieu envoie ça pour se glorifier et pour qu'on lui donne la gloire. Mais qu'est-ce qui se passe bien souvent? C'est que ces choses-là, aujourd'hui, ça ne glorifie plus Dieu et même les gens sont un peu aigris et les gens parfois ont tendance à dire « Ouais, mais vous avec vos histoires de je sais pas quoi là, de manifestation ou d'excitation. » Et du coup, au lieu de glorifier Dieu, eh ben, pire que ça, on est presque en train d'éloigner les gens de Dieu. Et là, c'est important d'être très vigilant et d'être sage. Vous savez, en même temps que le temps passe et qu'on s'approche de plus en plus du retour de Christ et que Dieu se révèle de plus en plus à son peuple, parce que la Bible déclare que la révélation doit grandir, mais en même temps, il y a aussi un retour de la sainteté et de ce qu'on appelle la crainte de Dieu, du respect pour Dieu. Parce que je crois qu'un temps, on était tellement dans la grâce qu'on se permettait n'importe quoi. Et si on veut arriver dans l'état où Dieu veut amener son Église, c'est-à-dire glorieuse, avec des manifestations de sa gloire, qu'elle soit dans une position telle que lorsque les gens regardent, ils ne puissent pas faire autrement que de dire gloire à Dieu, mais si nous voulons ça, nous devons aussi revenir un petit peu, reprendre notre sérieux et voir ce que Dieu, quelles sont les conditions pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit manifesté, et commencer à permettre à Dieu d'être à la place qui lui revient, afin qu'il manifeste aussi sa présence et sa gloire. Hein, mais en tout cas, Dieu se glorifie par ses œuvres. Et quelqu'un disait une chose très intéressante et très profonde. Et il disait, ne recherchez pas le spectaculaire au risque de passer à côté du surnaturel. C'est-à-dire que ce qui est spectaculaire n'est pas forcément surnaturel. Ce qui est surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. C'est-à-dire, Dieu fait des choses des fois dans le calme, tranquille, tu ne vois rien, mais n'empêche qu'après tu te rends compte que Dieu a fait quelque chose. Et c'est tout aussi puissant. Et je crois que nous avons besoin de revenir un petit peu à sortir de l'espèce d'euphorie parfois qu'on voit et d'être tout simplement authentique et vrai devant Dieu. Parce que vous savez, on a besoin de choses qui soient vraies, de choses qui soient authentiques. Il y a trop de simili, il y a trop d'à peu près, il y a trop de semblants. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Mais ce que Dieu fait, ce que Dieu désire et ce que Dieu aime, c'est la vérité. Et c'est ce qui est vrai, ce qui est authentique. Et lorsque nous sommes vrais et authentiques, nous donnons à Dieu l'occasion de venir se révéler et de manifester sa gloire dans des choses vraies. Vous savez, des fois, quand on produit les choses par nous-mêmes, ça se voit de toute façon que c'est faux. Quand on voit des gens qui s'auto-excitent, quand on voit des gens qui s'auto-énervent pour faire comme si, ben, c'est dommage parce qu'on voit qu'il y a du bruit, il y a une espèce d'ambiance, mais il manque ce qui en fait la force. Que si nous sommes là simplement tranquilles, on cherche la présence de Dieu et que Dieu agit d'une certaine manière, là vous savez que c'est lui parce que sa présence est là et on le reconnaît. On le reconnaît. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais bon, ça va servir. Donc Dieu se glorifie à travers ses œuvres et c'est pour ça que nous avons besoin de reconnaître Dieu dans toutes ses œuvres. Vous savez, des fois on a trop tendance à attendre qu'un gros truc nous tombe sur la tête pour remercier Dieu. Parfois, on attend d'avoir eu vraiment une grosse galère et que Dieu nous ait sorti là pour dire « Là, Dieu m'a aidé ». Mais il est important que nous reconnaissions Dieu dans toutes ses œuvres, dans tout ce qu'il fait, et que nous développions l'habitude de reconnaissance à Dieu et de louange à Dieu dans toutes ses œuvres. Et vous savez, si on n'est pas capable de donner gloire à Dieu dans les petites choses, j'aime pas dire petites choses parce qu'il n'y a pas de petites choses, mais si nous ne sommes pas capables de donner gloire à Dieu dans les choses qui peuvent ou quotidienne, mais comment est-ce qu'on va être capable de donner gloire à Dieu lorsqu'il va peut-être manifester des choses qu'on pourrait qualifier d'extraordinaires? Et je crois que c'est parfois ce qui a causé la perte ou la chute de même de certains réveils qu'on a pu voir dans des endroits et d'autres qui étaient authentiques, mais où on a la gloire à Dieu. Et quand on commence à se donner la gloire à soi-même, ça devient dangereux et ça s'arrête parce que Dieu ne partage pas, Dieu ne mélange pas sa gloire. Apprenons à donner gloire à Dieu dans les choses simples du quotidien, dans toutes les choses. Et pour ça, Romains 2, au verset 4, il dit « Mais méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» En fait, là, il est d'exhorter, mais il dit « Mais est-ce que tu méprises la bonté de Dieu ?» Et moi, j'ai envie de nous poser la question, est-ce que en prenant les choses pour acquises, en prenant les choses pour normales. Vous savez, des fois même le fait qu'on puisse se lever, qu'on puisse être en bonne santé, qu'on puisse travailler pour ceux qui travaillent, qu'on puisse avoir une famille pour ceux qui ont une famille, même qu'on puisse se réunir en assemblée. Pour ceux, bon, et est-ce que parfois on ne méprise pas un peu ces choses-là? Mais il est bon de reconnaître la bonté de Dieu dans toutes ces choses, tout ce qu'il y a autour de nous, et de prendre cette habitude de dire « Mais Seigneur, tu es bon ». Dieu, tu es bon. Vous savez, dans 2 Chroniques chapitre 5, il y a un moment que le peuple de Dieu était assemblé et que ceux qui devaient jouer des instruments et ceux qui devaient jouer, ceux qui faisaient le service en fait de Dieu, les sacrificateurs, eh bien, ils ont commencé à jouer de la trompette et ils ont commencé à déclarer que sa bonté durera toujours. Donner gloire à Dieu. Ils ont commencé à proclamer sa bonté. Et qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu s'est manifestée. Et plusieurs fois dans les Écritures et dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu devait aller au devant d'un combat ou bien devait accomplir des choses de la part de Dieu, qu'est-ce que Dieu leur disait de faire? De le louer, de proclamer sa bonté, de proclamer son nom. Et le fait de proclamer, de louer Dieu, de proclamer l'Éternel est bon, sa miséricorde durera jamais. L'Éternel est bon, sa miséricorde durera jamais. Bam, la gloire de Dieu descend et Dieu agit. Pourquoi ? Parce que tu reconnais qu'il est Dieu, tu reconnais sa bonté et donc tu permets à sa bonté de venir se manifester dans ta vie. Mais quand on est léger, qu'on ne reconnaît pas les choses, comment est-ce que Dieu va faire encore ? On ne reconnaîtra pas. Et d'ailleurs, Jésus disait, mais si vous n'êtes pas capable de croire en moi que vous voyez, comment donc croirez-vous dans le Père que vous ne voyez pas ? Et même si on peut désirer des choses sensibles et palpables dans notre vie, mais commençons par croire et reconnaître Dieu dans tout ce que nous voyons et que nous sentons. Amen. Alléluia. Jean 11, 40, tournez avec vous. Merci Seigneur. Vous savez, quand vous prenez l'habitude de remercier Dieu et de lui donner gloire, vous développez une habitude de louange et d'adoration. Et en plus, vous allez vous influencer votre mode de pensée. Parce qu'à force de proclamer l'Éternel est bon, merci Seigneur, tu fais de grandes choses pour moi. Et là, votre mode de pensée, vos habitudes sont touchées par ces choses-là. Et vous vous attendez justement à la bonté de Dieu. Et vous lui permettez de se glorifier. Et ça vous permet aussi de passer à travers les difficultés. L'autre jour, on parlait de la joie de Dieu qui nous permet de tirer en force. Vous savez que la reconnaissance, ça donne de la force aussi. Hein, d'être reconnaissant Dieu, de louer Dieu. De dire, mais Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Mais à un moment donné, même s'il y a des choses pas possibles qui se présentent à vous, parce que vous avez cette habitude de proclamer la bonté de Dieu et de louer Dieu, et bien même quand tout est contraire, même quand il fait noir, même quand vous êtes bloqué, même quand il y a un mur où vous ne voyez pas le bout et que vous avez besoin de passer, vous continuez. Vous dites, l'Éternel est bon. Seigneur, tu es bon. Tu as déjà préparé une issue. Tu es bon Seigneur, je reconnais ta présence, je reconnais ta bonté dans ma vie et je peux te dire que le mur il va pas tenir longtemps. Il y en a un exemple flagrant à Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas été prendre des mots, des machins, des trucs pour taper. Non ! Ils ont gardé le silence. D'ailleurs, il est dit l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Et sur ordre de l'Éternel, ils ont sonné de la trompette, ils ont commencé à proclamer la bonté de Dieu, ils ont fait un et qu'est-ce qui s'est passé ? Le mur est tombé. Et trop souvent, nous, ce que nous faisons quand ça ne va pas, nous commençons à chercher tout notre attirail. Nous commençons à dire, ah, mais Seigneur, fais quelque chose. Pas Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, tu es bon. Et je sais que ta puissance est capable de me sortir de là. Et tu vas voir que ça va passer. Parce que tu permets à ta volonté de se manifester. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, Dieu est présent partout. On a cette grande doctrine de l'omniprésence de Dieu, et c'est vrai. C'est-à-dire que Dieu est présent toujours et partout. Mais sa présence est manifestée, sa présence est agissante, même dans des mesures différentes. Et ce n'est pas que Dieu a des préférences pour certaines personnes ou pour certains endroits, mais en fait, notre attitude, notre comportement, notre façon de fonctionner, Notre consécration à Dieu va déterminer aussi la mesure dans laquelle se manifester et agir dans notre vie et à travers nous. Vous savez, Dieu est présent partout, il n'y a pas de problème. Mais si nous voulons voir nos vies ou à travers nous, si nous voulons que les gens autour de nous soient sauvés, parce qu'après tout, c'est quand même notre premier souci, du moins ça devrait. Là aussi, la plupart du temps, le premier souci de beaucoup de chrétiens, c'est « Ah, ma bénédiction !» Que le Seigneur me touche, que je sois ceci, cela. Notre premier souci, ça doit être les âmes. Comme disait mon pasteur en France, il disait que le tuyau, c'est le premier. Donc si notre désir, c'est de toucher les autres, d'être utilisé comme un canal de Dieu, on peut prendre cette image du tuyau d'arrosage, mais bien sûr que l'objectif, c'est d'aller éclabousser ou mouiller les autres autour de nous, mais le tuyau, il est mouillé aussi. C'est-à-dire que si tu te soucies de ce qui est dans le cœur de Dieu, de ce qui est le souci de Dieu, eh bien, tu vas commencer à voir Dieu à l'œuvre dans ta propre vie. Mais si on est juste tourné sur nous-mêmes, à un moment donné, ben, c'est pas génial parce que Dieu nous a bénis pour que nous soyons une source de bénédiction. Jean chapitre 7 dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et boive. » C'est très bien, c'est pour nous, mais ça n'est que le début. Il dit « cette eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive qui jaillira. » Jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu, bien sûr, veut nous donner à boire, mais plus encore que de nous faire boire, il veut que ce que nous avons bu, c'est-à-dire la bénédiction que nous recevons, la grâce de Dieu dans notre vie, sa gloire manifestée, puisse aussi jaillir. C'est-à-dire mouiller tout autour, toucher les gens, être un témoignage. Et en fait, c'est ça l'objectif de la gloire de Dieu aussi. Et nous avons besoin, pour voir sa gloire et vivre pleinement ce qu'il a préparé, de nous qualifier, entre guillemets. Peut-être que certains vont pas aimer le mot, parce que c'est vrai que la grâce de Dieu, c'est vrai qu'il nous forme, qu'il nous travaille, c'est Dieu qui nous qualifie au fond, mais quand je dis nous qualifier, c'est nous préparer, c'est travailler, remplir les conditions. Ce que je vous rappelle, Ésaïe 40, il nous a dit préparez le chemin, aplanissez le sentier. Nous ne pouvons pas amener la gloire de Dieu. Mais ce que nous pouvons faire, c'est préparer le chemin. C'est aplanir le sentier. On a cette autre parabole du semeur où il est dit de préparer le terrain aussi dans nos cœurs, de retirer les pierres et toutes ces choses-là. Vous savez, hier, j'étais en train de travailler un peu dans la cour là, et dans le jardin. Et je passais la tondeuse. Et des fois, quand je fais des choses comme ça, j'ai des pensées qui me viennent à l'esprit. Et je me suis dit, parce qu'il y a des endroits où c'est encore un peu pierreux. Et hein, à chaque fois qu'on passait avec la tondeuse, bon, ça fait du bruit, ça jette les pierres, tout ça. Et je me disais, bah oui, c'est important de préparer le terrain. Et c'est parce que quand la tondeuse va passer, bah, quand il y a les pierres, déjà, c'est pas pratique. Des fois, même, ça va bloquer l'action de la tondeuse. Et à terme, c'est pas une bonne chose. Et nous avons besoin de préparer le chemin, de préparer nos cœurs. Et un petit peu plus tard, j'étais en train d'arracher des mauvaises herbes. Il y en a encore beaucoup. Il y a du travail, je sais. Mais d'ailleurs, s'il y a des volontaires, vous pouvez venir. Mais j'ai commencé à nettoyer un peu mieux, à enlever les herbes tout autour et tout ça. Et j'étais en train d'arracher et par moments c'était un peu, je disais, bon, mais il y a des herbes de partout. Et puis par moments il faut prendre le sécateur, tout ça. Et j'ai eu encore cette pensée, je dis, même avec la tondeuse, vous passez dans les grands axes, dans les grandes allées, mais il y a des endroits où vous pouvez pas atteindre avec la tondeuse. Vous êtes obligé de prendre un outil de précision ou même d'y aller à la main. Et c'est comme si, c'est en montrer que il suffit pas juste de passer comme ça en surface, mais c'est bon de creuser, d'aller en profondeur dans les choses. Hein, et de permettre au Seigneur d'agir en nous avec des outils de précision, de mettre lui-même sa main. Pas juste de passer comme ça dans les allées larges et de dire, moi je me réserve certains endroits, mais de creuser, de permettre au Seigneur de nous parler en allant en profondeur dans les choses. En allant en profondeur. Et j'étais en train d'arracher ça et j'ai eu cette pensée de la parole qui dit « Défrichez-vous un champ nouveau ». Et vous savez, quand Dieu dit défricher, ça ne veut pas juste dire « Ok Seigneur, je suis prêt ». Non, ça veut dire « Travaille, mets-toi au boulot ». Quoi. Là encore, ce n'est pas trop méchant, parce que ce n'est pas non plus la savane trop dense. Quoi. Mais défricher, c'est faut arracher, faut couper, il y a du travail. Quoi. Et quand Dieu nous dit, et Dieu dit à son peuple « Défrichez-vous un champ nouveau » ou bien « Préparez le chemin pour que la gloire de Dieu vienne », ça veut dire « Les gars, mettez-vous au boulot ». Quand Dieu a dit à Néhémie construire la muraille de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas contentés de dire « Ok Seigneur, fais-le !» Et nous souvent on est là, parfois on voit ce que Dieu veut faire et puis on prie, on dit « Dieu fait ceci, Dieu fait cela !» Et après quand on se parle, on s'exhorte mutuellement, on dit « Oui, Dieu va faire, Dieu va faire. » Oui, Dieu va faire, mais pas sans que tu n'aies fait ta part. Puisque s'il te dit « Toi, prépare, défriche !» Et ça, il ne va pas le faire à notre place. Et on a besoin de préparer, de défricher pour que Dieu puisse venir manifester sa gloire. Et c'est toute la raison d'être de ce message qualifié pour la gloire. Et je vous propose qu'on prenne un premier passage qui va nous donner une première clé, c'est dans Jean 14. Et on n'ira peut-être pas très loin aujourd'hui, mais au moins on aura commencé. Jean 14, 21. Merci Seigneur. On va prendre le verset 20. Jean 14, 20. « En ce jour-là, dit Jésus, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Donc là encore, ça rappuie que le fait que nous sommes l'habitation de Dieu. Verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. » Et je me ferai connaître à lui. On peut également dire je me manifesterai à lui. Ou bien je me révélerai à lui. Donc si nous voulons se connaître à nous, ou que Dieu se manifeste à nous, ou que Dieu se révèle à nous, qu'est-ce qu'il faut au minimum? C'est avoir ses commandements et les garder. Et aussi l'aimer. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mais des fois on dit, Seigneur, je t'aime. Ah, j'aime Jésus. On le colle même sur les voitures, tout ça. J'aime Jésus. Je t'aime, Seigneur. Tu l'aimes, mais... Ce qu'il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Maintenant, nous avons ces commandements, nous les gardons. Donc, une première clé ou une première chose pour se qualifier, pour voir la gloire de Dieu, c'est d'aimer Dieu et faire ce qu'il nous dit. Garder ses commandements. Son plan, c'est que si vous l'aimez et si vous gardez ses commandements, il va se révéler. Il va le faire. C'est son désir. Dieu désire se révéler, se faire connaître, se manifester. Donc, si nous l'aimons et gardons ses commandements, il va se faire connaître à nous ou bien il va se manifester. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc, ça marche ensemble. Et ne rien aimer plus que lui. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ne même pas aimer la louange plus que Dieu. Ne même pas aimer entendre la parole plus que Dieu. Ne pas aimer adorer plus que Dieu lui-même. Vous savez, des fois, les gens, ils aiment la louange. C'est pas la louange qu'il faut aimer, c'est Dieu que nous aimons. Et parce que nous aimons Dieu, nous exprimons notre louange. Parce que nous aimons Dieu, nous l'adorons. Ce que nous devons aimer, c'est pas la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais parce que tu l'aimes et que tu gardes ses commandements, il se manifeste à toi. Vous allez me dire, ouais, mais bon, pourquoi... Ça peut paraître tout petit, mais c'est des choses qui font toute la différence. On ne doit pas aimer les effets, on ne doit pas aimer la puissance, on doit aimer Dieu. Et en retour, si nous l'aimons et gardons ses commandements, il se manifestera à nous. Une autre chose, Jean 11, 40. Jean 11, 40. Dans ce passage, on a l'histoire de Lazare que vous devez bien connaître. Lazare qui est mort, qui est au tombeau. Mais Jésus est là et puis il va le tombeau, rouler la pierre. Et tu sais, Seigneur, le mort, il sent déjà là. Ça fait quand même un peu 3 jours qu'il est mort. C'est peut-être pas une bonne idée hein, d'ouvrir le tombeau maintenant. Non. C'est un peu comme si on lui dit, ouais, mais bon, là, c'est un peu trop tard. Hein. C'est bien beau. Venir là et je sais pas qu'est-ce que les gens avaient vraiment dans leur pensée, mais je pense que pour tout le monde c'était terminé. Ils disaient c'est fini. Et même la sœur du mort dit à Jésus, mais tu sais, il sent déjà là, c'est bon. C'est pas la peine d'en rajouter, ça y est, c'est assez grave comme ça. Mais qu'est-ce que Jésus lui répond au verset 40? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Jésus lève les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. C'est pas une manifestation de la gloire de Dieu, ça? Il n'y a pas une nuée qui est descendue. Il n'y a pas de feu qui s'est allumé. Il n'y a pas eu d'excitation particulière. Il y a eu la foi. Et il y a eu l'obéissance. Parce que Jésus leur a dit, roulez la pierre. Ils ont fait ce que Dieu leur a dit, ce que Jésus leur a dit de faire. Ils ont roulé la pierre. Ils ont obéi. Ils ont gardé ce commandement. Et ensuite, Jésus dira, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc une condition pour voir la gloire de Dieu ou se qualifier pour la gloire de Dieu, c'est de croire. Vous savez, si vous ne croyez pas pour quelque chose, vous ne le verrez pas. Et d'ailleurs, c'est vrai dans les choses de la Bible ou les choses de la foi, mais c'est même vrai dans votre vie personnelle et quotidienne. Vous allez vous en rendre compte ou réfléchissez-y à l'occasion, mais si vous ne croyez pas que vous pouvez avoir quelque chose, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne croyez pas que vous pouvez faire quelque chose, vous ne le ferez jamais. La foi, c'est un principe qui est actif dans toute notre vie, tout le temps. Tout le temps. On ne va pas plus loin que ce pourquoi on croit. Mais là, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous devons croire ce que Dieu dit. Nous devons croire que ce qu'il dit est vrai. Nous devons croire que les commandements ou les instructions qu'il nous donne sont bonnes et les pratiquer. Nous devons croire. Et qu'est-ce qui va se passer si nous croyons? Nous allons voir la gloire de Dieu. Même quand tout est terminé, même quand c'est plus possible, même quand ça pue déjà, quand c'est pourri. Je sais que je suis un peu cru, mais des fois il y a des situations qui sont pourries. Des fois il y a des gens, franchement ça pue quoi. Mais si tu crois, que ce soit dans des relations, que ce soit dans des choses que vous attendez, que ce soit des choses que vous voulez accomplir, même si ça pue, si tu crois, gloire de Dieu. Vous savez que Dieu est capable de restaurer des choses, Dieu est capable de changer des choses, Dieu est capable de ressusciter, mais Dieu est capable de créer et de recréer. Donc même si le truc il est plus là, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je rappelle quoi, c'est tu verras, tu supposeras, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Vous allez me dire, oui, mais moi je crois. Mais tu sais, moi ça fait longtemps que je crois. Et peut-être même que je parle en fonction de ce que je crois, peut-être même que je déclare, oui, à l'œuvre dans ma vie, tout ça. Oui, mais si tu crois, c'est pas juste si tu crois et puis tu attends que ça se passe. La foi appelle à l'action. Vous savez, Jacques, c'est quelqu'un qui a une épître très pratique. Et Jacques, il dira que la foi sans les œuvres, elle est quoi ? Morte. Autrement dit, la foi sans œuvres, c'est comme s'il n'y avait pas de foi. Alors, ce n'est pas d'aller faire n'importe quelles œuvres, mais c'est de se mettre en action. Croire, c'est agir. Et c'est pour ça que j'ose, ou que je vous exhorte à vous préparer, à vous qualifier pour la gloire de Dieu. Parce que croire que Dieu va manifester sa gloire, que Dieu est capable de sauver des gens par centaines et par milliers, même dans notre génération présente, croire que Dieu peut agir, c'est une chose. Mais si nous le croyons maintenant, ça appelle à l'action qui consiste à se préparer à recevoir ce que Dieu a dit. Si je te promets que je vais te donner mon super salon en cuir et que je vais te le livrer samedi, si tu crois, samedi, tu fais de la place dans ton salon pour que je puisse venir déposer mon canapé et mes fauteuils pour toi. Tu te prépares. Si je suis là et que je te dis, bah tiens, la semaine prochaine, je vais passer te voir tel jour à telle heure, on va prendre du temps ensemble. Si tu crois ce que je te dis, tu vas te préparer, tu seras présent, tu auras peut-être même gentil, préparer un petit jus bien glacé pour moi. Si tu crois, tu te prépares. Mais le seul domaine dans lequel on ne se prépare pas, c'est les choses de Dieu. On dit, ah, je crois. Dieu fera. Si tu crois, il faut aussi te préparer. Et parfois, je dis aux gens, imagine un instant comment ce serait ou dans quel état tu serais si tu avais ce que tu attends de Dieu. Et vous pouvez faire l'exercice. S'il y a quelque chose que tu attends de Dieu, comment tu serais, dans quel état tu serais, comment tu te vois si tu avais ce que tu attends. Et aujourd'hui, prépare-toi. Aujourd'hui, fais, entre guillemets, comme si tu avais la chose. Parce que lorsque tu crois et lorsque Dieu a parlé, comme je disais tout à l'heure, il a déjà accompli ce qu'il a dit. Maintenant, il peut parfois y avoir un petit laps de temps entre le moment où il a parlé et où il l'a dit et le moment où tu le reçois. Mais toi, prépare-toi. En sorte qu'au moment où l'heure a sonné pour la manifestation, eh bien, tu ne vas pas te dire « Ah mince, il faut que je me prépare !» À ce qu'au moment où je suis devant chez toi avec mon canapé et mes fauteuils et qu'on a pris rendez-vous et que je n'ai pas beaucoup de temps, tu ne commences pas à me dire « Ah mais qu'est-ce que je vais faire avec mon ancien fauteuil tout déchiré ? Où est-ce que je vais le mettre ? J'ai pas de place dans ma cave, attends, il faut que je fasse de la place !» Si tu crois, tu verras sa gloire. Mais pour voir sa gloire, il faut s'y préparer, te préparer. Prépare le terrain, prépare-toi. Bouge, agis, cherche. Et une des manières de se préparer à recevoir, et je vais conclure avec ça, la bénédiction ou ce que Dieu prépare pour vous, c'est de prendre, chercher ce qu'il dit au sujet de ce que vous hein? Tu cherches, tu regardes. Qu'est-ce qu'il est dit? Quoi c'est associé? Qu'est-ce qu'il est dit de faire? Quelle attitude est-ce que je devrais avoir? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Et tu pries, tu dis, Seigneur, montre-moi. Je veux tes instructions, je veux tes commandements pour les suivre, puisque celui qui aime Dieu et qui accomplit ses commandements, il se manifestera à lui. Et tu commences à agir comme ça. Donc nous avons besoin de nous préparer ou de nous qualifier pour voir la gloire de Dieu. Une chose est sûre, c'est que Dieu veut manifester sa gloire. Et si ce n'est pas encore fait, c'est simplement parce que nous avons notre part à jouer. Et c'est ce que je veux vraiment vous exhorter à faire. Alors on a commencé de résumer. On a déjà vu qu'il fallait aimer Dieu, garder ses commandements, agir en conséquence pour qu'il se manifeste à nous, qu'il fallait croire et que croire c'était aussi agir et se préparer. Et également, au départ, que proclamer sa bonté et le remercier, pardon, et le louer dans les situations nous prépare aussi à ce que sa gloire puisse se manifester. Donc pour l'instant, on va en rester là. Mais en tout cas, je vous exhorte vraiment et je vous encourage à prendre le temps, même dans la semaine, à prier, pourquoi pas, à être dans la parole et à vous préparer, à demander au Seigneur. Déjà, vous consacrer, dire Seigneur, oui, je veux voir ta gloire, je veux que tu agisses dans ma vie. Mais Seigneur, montre-moi, instruis-moi, pour que je puisse obéir à tes commandements et pour que je puisse agir dans la foi jusqu'à ce que tu sois manifesté et glorifié. Amen.